VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, une attaque a eu lieu ce matin à Intagom, Bourgade, située près de la frontière du Mali. Des détails avec Claire Morin-Gibour.
Tôt ce mercredi matin, des individus lourdement armés ont attaqué les positions des forces de défense burkinabé à Intagom, localité située à une vingtaine de kilomètres de Tin-Akof, près du Mali. L'attaque a été confirmée par un communiqué du ministère de la Défense nationale, publié à la mi-journée. Le commandant de la compagnie antiterroriste a confirmé à VOA Afrique qu'il y avait eu 3 morts côté militaire burkinabé et que 2 des assaillants ont été abattus. Un renfort a été envoyé sur place et un ratissage de la zone est en cours pour retrouver les auteurs. Déjà, le 3 mai dernier, 3 policiers avaient été tués dans cette même localité.
Dans le nord-est du Nigeria, 8 personnes ont été tuées ce mercredi matin dans l'explosion d'une voiture à la gare routière de Maiduguri. Les précisions de Nani Talani.
Le porte-parole de la police locale, Victor Isuku, a déclaré que l'attentat, qui n'a pas été revendiqué, s'est produit à la sortie de la capitale de l'État du Borno, berceau du groupe Boko Haram. Tôt ce matin, une bombe artisanale a explosé à bord d'une voiture qui transportait 5 personnes. Un taxi collectif a tenté d'entrer dans la gare routière où les véhicules attendaient une escorte militaire avant de prendre la route vers Dikwa et Gomburungala. 8 personnes ont été tuées et 15 autres blessées. La police affirme qu'une femme kamikaze est à l'origine de l'explosion. Mais le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences n'a pas confirmé l'hypothèse de l'attentat suicide, ni celle d'une bombe placée dans le véhicule. Ancien fief de Boko Haram, Maiduguri a réussi à retrouver une paix relative depuis l'élection du président Muhammadu Buhari en mai 2015 et l'armée nigériane continue une vaste offensive dans la région.
L'Éthiopie maintenant, le gouvernement éthiopien est confronté à sa plus grave crise en 25 ans. Un mouvement contestataire parfois violent a commencé en novembre 2015 en région Oromo, dans le centre et l'ouest du pays, puis s'est étendu depuis l'été à la région Amara, dans le nord. D'où la décision des autorités de décréter l'état d'urgence pour 6 mois sur l'ensemble du territoire. D'où vient cette violence qui secoue le pays? Idriss Fall s'est entretenu avec Tigue Chiferor, journaliste basée à New York, qui a été longtemps correspondante à Addis Abeba.
Le degré de violence actuel, c'est une violence qui s'est accumulée depuis au moins 11 ans, notamment en 2005 lors d'élections législatives et l'opposition a boycotté certains résultats. Et le peuple s'est senti un peu démuni et petit à petit a commencé à exprimer sa frustration, frustration qui naît notamment aussi de l'économie, où le coût de la vie a décuplé à Addis Abeba, la vie est extrêmement chère, de même aussi dans les villes de province.
Mais qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres?
Plusieurs groupes avaient déjà commencé à manifester leur mécontentement face aux autorités, notamment une partie de la population musulmane déjà en 2012. Le pouvoir qui est essentiellement aux mains d'un seul groupe ethnique, à savoir les Tigréens, a toujours essayé de mettre des gens de sa propre ethnie à plusieurs postes clés dans différents secteurs de l'économie, de l'armée éthiopienne. Et la population commence à ressentir ça comme une sorte d'ostracisme interne. Et un groupe ethnique comme le groupe Oromo, qui est quand même le groupe majoritaire en Éthiopie, plus de 25 millions de personnes, il est complètement marginalisé. Il ressent aussi qu'on lui prend ses terres sans trop lui demander sa permission, d'où cette colère.
Et les Amara alors?
Les Amara, eux aussi, représentent un groupe ethnique assez important. Ils sont pratiquement 19 millions, alors que les Tigréens au pouvoir ne représentent qu'environ 4 millions de la population, c'est-à-dire une minorité infime. Les Amara, leur vision est peut-être un peu différente. Il s'avère que cette ethnie a longtemps été à la tête du pouvoir, notamment par le biais de la monarchie. Peut-être qu'il y a aussi cette envie de mettre les Tigréens de côté pour reprendre le dessus. En tout cas, toujours est-il que la jeunesse est frustrée. Cette jeunesse, elle était frustrée aussi sous la monarchie. Elle a été frustrée aussi sous la dictature de Mengistu Haile Mariam.
Et maintenant, Internet est coupé, les réseaux sociaux, ce qui n'est pas pour calmer les jeunes.
Certes, date, et c'est pas une nouveauté, c'est une tactique qui a été utilisée depuis plusieurs années, qui marche. Les réseaux, y compris les radios, les programmes radio en provenance de l'extérieur, dont VOA en Amérique, ont souvent été perturbés. Idem pour la chaîne de télé de l'opposition qui est basée à Washington.
Le Premier ministre vient de promettre, avec la visite d'Angela Merkel, qu'il va réformer le système politique. Vous y croyez-vous?
Non, j'y crois pas trop. Je pense qu'en fait, ce sont juste quelques mots d'apaisement auprès de la chancelière allemande, peut-être afin de la mettre en confiance, puisque apparemment beaucoup de compagnies étrangères ont été attaquées lors des dernières semaines. Donc c'est peut-être un moyen de pouvoir continuer à obtenir l'aide financière de l'Allemagne. Je pense hélas que ces promesses risquent très peu d'être tenues.
Tsige Chiveau, journaliste basée à New York, qui a été longtemps correspondante à Addis Abeba.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump intensifie actuellement les attaques contre son adversaire démocrate Hillary Clinton pour contrer le tollé provoqué par ses propres propos dégradants au sujet des femmes. Le point avec Timothée Donangmaï.
Trump et ses partisans ne décollèrent pas après la décision du président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, de ne pas battre campagne pour lui, mais plutôt d'aider le Parti républicain à maintenir sa majorité à la Chambre. Toutefois, leur grand problème se situe ailleurs, dans la vive controverse déclenchée par cette vidéo de 2005 dans laquelle le candidat républicain tient des propos dégradants au sujet des femmes. Sans distinction d'opinion politique, ces dernières ont décidé par milliers de faire part de leur propre expérience de victime d'attaques sexuelles. C'est le cas de Jennifer McGraw, une femme de Cleveland, à l'Ohio, qui a décrit sur un blog dimanche les abus qu'elle a subis en tant qu'enfant et le viol dont elle a été victime par la suite. Les propos décriés de Trump suscitent un débat national sur les violences sexuelles et c'est quelque chose de très puissant, explique Delila Romberg, président du Centre national des ressources sur les violences sexuelles basé à Harrisburg, en Pennsylvanie. Ironiquement, les propos du candidat républicain ont poussé les femmes à se lever et s'exprimer, note pour sa part Alexa McGriffith, jeune femme de 28 ans, qui a, elle aussi, écrit sur Internet au sujet de son expérience de survivante d'un viol. La furie féminine contre la vidéo de 2005 risque de coûter à Donald Trump les voix d'une importante frange de l'électorat au moment où les embûches semblent se multiplier sur son chemin vers la Maison-Blanche.
Côté démocrate, la candidate Hillary Clinton multiplie les meetings électoraux alors que son état-major gère la controverse suscitée par des emails piratés du compte du président de sa campagne, John Podesta, et publiés depuis vendredi dernier par Wikileaks. De nouveau, Timothée Donangmaï.
Ces emails révèlent notamment que le camp Clinton était impatient de tourner la page sur l'utilisation par elle d'un serveur privé installé dans la cave de sa maison de l'État de New York pour ses communications du temps où elle était secrétaire d'État. Il montre aussi que l'équipe de Mme Clinton a mis du temps à prendre conscience de l'ampleur du problème. Dans l'un des emails, le porte-parole de la campagne de Mme Clinton, Brian Fallon, informe le reste de l'équipe avoir appris par d'anciens collègues au ministère de la Justice qu'une audience judiciaire était imminente sur le dossier du serveur privé. Pour le camp Trump, c'est bien une preuve de plus d'une collusion entre la campagne d'Hillary Clinton et le ministère de la Justice, une accusation que rejette le camp de la candidate démocrate.
Proche-Orient, Israël est totalement à l'arrêt ce mercredi pour Yom Kippour, la fête la plus solennelle du calendrier juif. Les territoires palestiniens ont été entièrement bouclés pour prévenir toute attaque. Anastasie Toudjiech.
Yom Kippour, le jour du grand pardon, a commencé hier soir et se termine ce soir. Tout est à l'arrêt dans l'État hébreu, les aéroports cessent de fonctionner, les programmes de radio et de télévision s'arrêtent, les magasins sont fermés et les voitures ne circulent pas. Les fidèles vêtus de blanc se rendent à pied et en famille à la synagogue. De nombreux juifs observent un jeûne d'une journée. Pour prévenir les attentats, le dispositif de sécurité a été plus que renforcé. Tous les points de passage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sont bouclés. Plus de 3000 policiers sont mobilisés à Jérusalem et la police a installé des barrages à toutes les entrées de Jérusalem-Est. Cette nuit, des heurts ont éclaté lors d'une descente de la police israélienne dans un quartier de Jérusalem-Est où vivait l'auteur de l'attentat de dimanche dernier. Un Palestinien de 20 ans, Ali Shiouki, a été abattu dans des circonstances peu claires par les forces israéliennes.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. www.voaafrica.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.